déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, nous vous présentons le père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, théologien, prieur de la communauté de Saint-Constant. La série s'intitule « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ».
Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à vous partager des extraits de mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ». Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le magnifique récit de la transfiguration de Jésus dans l'Évangile de Marc au chapitre 9, les versets 2 à 10. Et nous y entrons avec la méthode de la Lectio Divina et pour ce faire, bien, on commence toujours par une invocation à l'Esprit-Saint. Esprit-Saint, viens ouvrir notre oreille, nos oreilles, celles de notre cœur, pour que nous puissions entendre la parole de Dieu qui se dit à travers ce texte. Esprit-Saint, nous voici disponibles. Alors, je vous lis tout d'abord le récit, Marc 9, les versets 2 à 10. Et, après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean et les mène en haut d'une montagne élevée, eux seuls à l'écart. Et il fut métamorphosé en face d'eux. Et ses vêtements devinrent resplendissants, extrêmement blancs, comme aucun teinturier sur terre n'est capable de blanchir ainsi. Et furent vus par eux Élie avec Moïse, qui s'entretenait avec Jésus. Et ayant pris la parole, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon pour nous d'être ici. Et faisons 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Et advint une nuée les couvrant d'ombre, et advint une voix sortant de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, ayant regardé tout autour, ils ne virent plus personne, mais Jésus seul avec eux. Et descendant de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne les choses qu'ils avaient vues, du moins tant que le Fils de l'homme ne serait levé d'entre les morts. Ils s'en tinrent à cette parole, se demandant entre eux ce que « levé d'entre les morts » signifie. Alors voilà, débutons notre démarche de Lectio Divina par la première étape qu'on appelle la Lectio, celle où on essaie de comprendre ce que dit le texte. Eh bien, notre récit d'aujourd'hui a lieu après que Pierre, au chapitre 8, soit parvenu à confesser que Jésus est le Christ et que celui-ci, Jésus, ait commencé à enseigner à ses disciples par quel chemin il devait passer pour accomplir sa mission. Pour la première fois, Jésus leur avait parlé de l'humiliation, de la souffrance, de la mort qui l'attendait. Puis ça, ben, c'était apparu comme insensé aux oreilles de Pierre. Puis Pierre s'était permis de réprimander Jésus en disant, « Ben voyons donc, ça se peut pas, ça arrivera pas. » Alors Jésus avait réagi en le traitant de Satan, puis en lui exprimant que sa manière de voir, ce n'était pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Puis Jésus, après ça, en avait rajouté en déclarant qu'il n'y a pas seulement lui qui devait emprunter le chemin de la croix, mais il avait dit ceci, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Puis c'est là qu'arrive l'événement qu'on nomme traditionnellement la transfiguration, là, que je viens de vous lire. Et ce récit apparaît, je dirais, comme une anticipation de la résurrection. Il fait voir aux intimes de Jésus qu'il existe un avenir glorieux, là, au-delà de la souffrance et de la mort que Jésus a annoncée. C'est comme un encouragement à poursuivre la route à la suite de Jésus. Même si ce parcours implique avant un passage éprouvant. Alors, voyez Marc qui a commencé sa narration en disant que Jésus amène ses trois intimes sur une montagne élevée. Bien, la montagne, elle a ici un sens théologique. Elle représente, je dirais, le lieu où le ciel et la terre se rejoignent. Dans la culture du monde biblique, on considérait que Dieu habite dans le ciel. Alors, voyez-vous, monter, ça revient donc à s'approcher de lui. Et le verset 2 mentionne que Jésus ne fait monter que le trio de ses intimes. Puis Marc ajoute qu'il les conduit à l'écart. Ça veut dire que la révélation qu'il veut leur communiquer a une dimension secrète. Et puisque ça va avoir lieu sur une haute montagne, ben, ce sera la communication d'un mystère divin. Pierre, Jacques, Jean ont été les premiers appelés de Jésus et on voit qu'il les prépare à devenir des témoins privilégiés après sa résurrection. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce lieu de proximité avec Dieu? Voilà que quelque chose de tout à fait inattendu se produit. Soudainement, Jésus se manifeste à ses disciples sous une apparence différente. Il leur apparaît autre, transformé. En grec, tout l'évangile de Marc est écrit en grec, eh bien, Marc emploie le verbe « métamorphoo », d'où vient notre verbe français « métamorphoser ». Alors, cette transformation, ça rappelle le rayonnement du visage de Moïse après ses rencontres avec le Seigneur dans l'Ancien Testament là, sur la montagne. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est dans au livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 39 à 35, on lit ceci là, au verset 29. « Et il advint, lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant à la main les deux tablettes du témoignage, quand il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que la peau de son visage rayonnait lorsqu'il parlait avec lui. » Alors, revenons à notre récit. Marc précise que cette transformation se produit en face d'eux, les trois apôtres. Alors, ce qu'il exprime de cette manière-là, c'est que c'est un phénomène bien réel. Ce n'est pas dans leur tête que ça se produit, ce n'est pas de l'imagination. Ce qu'ils voient, ça émane véritablement de Jésus. Et l'évangéliste décrit aussi les vêtements du transfiguré. Il dit « Ses vêtements devinrent resplendissants, extrêmement blancs, comme aucun teinturier sur terre n'est capable de blanchir ainsi. » Bien, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la littérature apocalyptique, là, les vêtements blancs, ça représente ce qui appartient à la gloire céleste, ce qui appartient au monde divin. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, les martyrs qui vivent dans la gloire du ciel sont toujours habillés en blanc. Eh bien, Marc, lui, précise que cette blancheur, elle n'est pas terrestre. En décrivant comme ça l'apparence de l'habillement de Jésus, c'est son identité là, qu'il entend évoquer. Parce que dans la Bible, les vêtements, ça fait souvent référence à l'identité d'une personne. C'est comme l'expression extérieure de l'être profond. Alors, ce que nous comprenons, c'est que ce qui est à contempler ici, c'est le rayonnement de l'être glorieux de Jésus. C'est l'éclat de sa condition de fils de Dieu, qui habituellement n'est pas visible au regard des humains. Alors, Dieu accorde à ses trois intimes de voir d'avance ce que sera la gloire de leur maître dans la résurrection. Bien sûr, c'est que la destinée ultime de Jésus, ce n'est pas de mourir de manière humiliante sur la croix, ce n'est pas la fin de tout, ça. mais c'est de vivre dans la gloire du Père, rayonnant de la gloire céleste, partageant sa vie divine. Et ça, ça transparaît déjà un court moment pour le bénéfice de ses témoins. Alors, allons en musique et au retour, nous continuons à explorer ce récit de la transfiguration de Jésus. Vous êtes toujours en compagnie du Père Michel Proulx. Aujourd'hui, nous continuons à explorer le récit de la transfiguration de Jésus à l'aide de la Lectio Divina, qui est au chapitre 9 de l'Évangile de Marc, les versets 2 à 10. Alors, les apôtres sont témoins d'une transformation de l'apparence de Jésus, et ce qu'ils voient, ça ne s'arrête pas là. Ils voient deux grandes figures du peuple de l'Alliance, Moïse, qui représente la loi, Élie, qui représente l'ensemble des prophètes. Et à eux deux, ils synthétisent en quelque sorte l'essentiel de la parole de Dieu transmise par les Saintes Écritures. Bon, pourquoi est-ce qu'ils sont présentés en conversation avec Jésus transfiguré? Ce dialogue avec Moïse et Élie, ça vient attester que les paroles surprenantes, puis même choquantes, que Jésus a prononcées dernièrement, l'annonce du passage de la Passion, le fait que ses apôtres doivent le suivre sur le chemin de la croix, ces paroles-là ne sont pas en opposition avec la loi de Moïse et avec les écrits des prophètes. Et c'est très important que les apôtres voient ça, parce que les confidences que Jésus avait faites avaient probablement suscité le doute parmi les apôtres. Est-ce que Jésus avait mal compris l'enseignement des Saintes Écritures? Est-ce qu'il pouvait faire confiance à quelqu'un qui disait des choses comme ça? Est-ce qu'il pouvait croire encore qu'il était le Messie attendu? C'était tellement surprenant qu'ils disent qu'ils doivent mourir sur la croix, et en plus que ses apôtres doivent le suivre. Alors, est-ce qu'ils pouvaient suivre quelqu'un qui leur demandait de se renier eux-mêmes? C'est dans ce contexte que Marc leur fait contempler Jésus qui échange de manière sereine avec Moïse et Élie. Ils dialoguent comme des amis, sans conflit. Alors, à travers cette expérience, les disciples peuvent comprendre que l'enseignement de Jésus ne contredit pas la loi et les prophètes. Le chemin qu'il propose, ce n'est pas une rupture avec ce que les grandes figures du passé ont transmis de la parole de Dieu. Pierre, lui, ne peut pas demeurer passif devant cette manifestation-là. Puis comme d'habitude, il se montre prompt à prendre la parole. Mais d'après ce qu'il dit, c'est clair qu'il n'a pas compris ce qui se passe. Sa manière de s'adresser à Jésus n'est pas ajustée. Il l'appelle « Rabbi ». Un titre très banal qu'on utilisait pour s'adresser à n'importe quel enseignant juif. Est-ce qu'il ne vient pas de constater que Jésus est bien plus qu'un simple maître de la loi juive? Donc, sa façon de s'exprimer, ça donne l'impression que Pierre n'est pas capable d'intégrer la révélation qui lui est faite. Par ailleurs, en proposant de dresser une tente pour chacun des trois personnages célestes, Pierre y réagit comme s'il voulait maintenir Jésus dans cet état de gloire. Côtoyer un Jésus lumineux, glorieux, ça fait bien plus son affaire que de suivre un maître qui devrait passer par le rejet, la souffrance et la mort. Alors, Pierre, il propose, en quelque sorte, de demeurer dans cette gloire céleste. Hein, parce que cet état-là, ça correspond davantage à l'image qu'il se fait du Messie. Hein, une gloire sans croix. En offrant une tente à Jésus, Pierre, il joue, dans le fond, sans le jeu du tentateur, parce qu'il fait miroiter un autre chemin que celui de sa mission d'humble serviteur. Jésus pourrait lui répondre encore, « Derrière moi, Satan, hein, parce qu'il vu sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Marc en profite pour émettre son point de vue, ce qu'il fait parfois, il dit, « Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. » Bon, alors par quoi est-ce que Pierre et ses compagnons sont effrayés? Est-ce qu'ils ont peur de ce qu'ils voient? Probablement pas, parce que Pierre a dit, « Il est bon que nous soyons ici. » Est-ce que ça se pourrait plutôt qu'ils aient peur d'avoir à emprunter le même chemin que Jésus, le chemin de la croix? Alors, en proposant de dresser des tentes, ben Pierre, il voudrait en quelque sorte arrêter le temps pour éviter d'aller vers ce qui les attend. Alors, pour le moment, les manifestations surnaturelles ne sont pas terminées, parce que là, on dit qu'il y a une nuée qui arrive, et il y a une voix, celle du Père, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Hein, la nuée, c'est très souvent le symbole de la présence de Dieu. Alors, cette fois-ci, nous voyons que Dieu s'adresse non pas à Jésus, mais aux trois disciples. Et c'est une manière de confirmer que Jésus, c'est pas un original là, qui se prend pour quelqu'un d'autre. Non, il est son Fils bien-aimé, mais il est demandé aussi aux trois intimes de Jésus d'écouter ce qu'il dit, ce que Jésus dit. Alors, en quelque sorte, le Père vient soutenir leur cheminement hésitant. Et on voit que le Père ne fait pas que lever le voile sur l'identité véritable de Jésus, mais il les invite à écouter ce qu'il dit. Donc, il approuve ce que Jésus a enseigné jusqu'à maintenant, même lorsqu'il a parlé de sa passion à venir et de la nécessité pour ses disciples d'emprunter la même voie. Et c'était certainement important que Marc insère ce passage, justement pour exhorter ses disciples à lui faire confiance, pour les exhorter à continuer à suivre Jésus sur ce chemin qui était étonnant. Alors nous allons aller en musique et au retour, nous poursuivons l'exploration de ce récit de l'Évangile de Marc. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Galilée en compagnie du Père Michel Proulx, prémontré. Nous continuons à explorer des extraits de mon livre « Entre puissance et dépouillement », prier l'Évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le récit de la transfiguration de Jésus en Marc 9, les versets 2 à 10. Alors, au terme de son récit, Marc mentionne que soudainement, les disciples regardent autour d'eux puis ils ne voient plus personne. Hein, l'expérience spirituelle se termine aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les disciples retournent à la normale. Et voilà, cette vision, on voit qu'elle aurait été donnée pour qu'ils aient le courage de suivre Jésus jusqu'au drame de la Passion. Et c'est pas pour rien que Marc a inséré ce récit dans son évangile. Faut pas oublier qu'il s'adresse à une communauté qui est persécutée à Rome sous Néron. Et cette communauté-là aussi doute, a de la difficulté à poursuivre la route. Alors pour elle aussi, le voile a été levé pour qu'ils aient la force de suivre Jésus jusqu'au martyre. Hein? Parce que pour eux aussi, le temps de la béatitude céleste, là, c'est pas pour l'immédiat. Pour l'heure, ils ont à poursuivre eux aussi leur vie chrétienne en contexte de persécution avec la certitude que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ils sont appelés à lui faire confiance, même s'ils ont à passer par quelque chose de difficile. Finalement, Marc mentionne que les disciples descendent de la montagne, puis Jésus annonce au trio une bonne nouvelle pleine d'espérance. Il leur parle d'une résurrection des morts pour le Fils de l'homme. Alors, ils ont quelque chose pour ancrer leur espérance. Parce que Jésus, c'est le Fils bien-aimé du Père, la mort pourra pas le garder dans ses liens. Et Pierre, Jacques et Jean, ils gardent ce secret pour l'instant, comme ça leur est demandé par Jésus, parce que s'ils annoncent immédiatement cet avenir glorieux de Jésus, l'ensemble des disciples aura une fausse perception du Messie. Le Messie doit d'abord passer par la mort, l'humiliation. Sans cet aspect, le Messie ne peut pas être saisi comme il devrait l'être. Ah voilà, nous passons maintenant à la deuxième étape de notre Lectio Divina, qui est la méditatio, c'est-à-dire la partie où on essaie de voir comment un récit comme ça peut nous rejoindre aujourd'hui. À bien y penser, nous faisons partie, nous aussi, du groupe des intimes de Jésus. Grâce à ce récit, nous autres aussi, aujourd'hui, nous avons gravi la montagne et nous avons participé à cette expérience de révélation. La narration que Marc a fait pour nous, elle nous a permis, nous, d'être des témoins de ce qui s'est passé dans ce lieu sacré. Vous et moi, aujourd'hui, à travers cette lecture, cette méditation, est-ce que nous n'avons pas contemplé la grandeur de Jésus? Est-ce que nous n'avons pas entrevu quelque chose du ministère divin qui l'habite? On pourrait dire que le récit de l'Évangile, c'est devenu comme une fenêtre à travers laquelle on a pu contempler ce qui s'est passé sur la montagne. Et aussi, par l'entremise de cet Évangile, nous avons entendu, nous aussi, la voix de Dieu le Père, nous avons entendu son message qui est parvenu jusqu'à nos oreilles. Est-ce que ce n'est pas une grande grâce? Et je dirais que, grâce à l'Évangile de Marc, est-ce que nous n'avons pas reçu autant que le trio des intimes de Jésus? C'est comme si, par l'Évangile de Marc, nous faisions partie des intimes qui avons été conduits sur la montagne. Prenons une autre piste de méditation. On a constaté que Pierre a éprouvé de réelles difficultés à accepter que Jésus doive passer par l'humiliation, la souffrance et la mort. Ce qu'on a pu observer, c'est que lui désirait un Messie glorieux, sans l'ombre de la croix. Il aurait voulu, en quelque sorte, une résurrection sans passion. Alors, ça nous pose une question à nous. Moi, est-ce que j'accepte les deux facettes de l'événement pascal? Dans l'événement pascal, il y a la mort, puis il y a la résurrection, un petit peu comme les deux côtés d'une médaille. Alors, moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis comme Pierre, le chef des apôtres? Est-ce que j'ai tendance à vouloir éliminer la croix? On a vu aussi que les disciples avaient peur, probablement d'avoir à emprunter le même chemin. Alors, ça nous pose une question à nous. Moi, est-ce que je partage cette peur des disciples? Est-ce que je crains d'avoir à suivre Jésus sur le chemin de la croix, sur le chemin qu'il a emprunté? Alors, ça vaudrait la peine de prendre le temps de méditer puis d'accueillir la bonne nouvelle de la résurrection qu'il y a aussi dans ce récit pour être capable de nous réconcilier avec notre propre chemin. Parce que c'est sûr que, tôt ou tard, vous et moi, ben, nous allons devoir passer par la mort. Puis, entre-temps, ben, je vous avais assez d'expérience dans la vie pour savoir que ben, être disciple de Jésus en ce monde, ben, ça occasionne à divers moments des renoncements, des souffrances si nous voulons être fidèles. Alors, on a tout avantage à méditer sur le fait que ce chemin-là, il aboutit à la résurrection. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, on n'est pas des masochistes, mais lorsque nous sommes conscients que ce chemin aboutit à la résurrection, ben, ça nous donne du courage pour affronter ces aspects plus difficiles lorsque c'est nécessaire. Voilà, ça nous conduit maintenant à notre troisième et dernière étape de notre Lectio Divina, qui est l'étape de la prière, oratio. Alors, je vous invite, si vous le désirez, à vous mettre en état de prière, à partager cette prière que je vais formuler, et puis, ben, dans votre esprit, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Dieu, notre Père, merci pour l'évangile de Marc. Merci de nous révéler par cet évangile que Jésus est ton Fils bien-aimé, en qui nous pouvons avoir pleine confiance. Merci à toi, Seigneur Jésus, de nous prendre parmi tes intimes pour nous faire voir qui tu es. Esprit Saint, aide-nous à ne pas fuir le côté souffrant de la passion. Donne-nous le courage d'accepter non seulement la croix de Jésus, mais aussi la croix que nous avons apportée comme disciples pour parvenir un jour à la résurrection avec lui. Donne-nous de ne pas fuir les souffrances et les renoncements qui font partie de notre condition de disciple, qui font partie de notre vocation. En terminant, Seigneur Jésus, te contempler dans la gloire me fortifie. Demeure à mes côtés, Seigneur Jésus. Et si tu es là, je pourrai poursuivre ma route jusqu'au bout. J'ai confiance en toi. Amen. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission, j'espère que ça vous a aidé à approfondir ce magnifique récit de la transfiguration de Jésus. Je vous rappelle que c'était un extrait de mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'évangile de Marc » qui est publié aux éditions Médiapôle. La semaine prochaine, nous nous retrouverons, et si jamais vous voulez vous préparer, la semaine prochaine, nous nous pencherons sur un autre extrait de l'évangile de Marc qui est au chapitre 10, les versets 46 à 52, où nous serons invités à avoir confiance en Jésus et à nous laisser faire par lui, nous laisser sauver par lui. Alors d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et nous nous retrouvons la prochaine fois. À très bientôt.
Déroulement du livre, vous venez d'entendre le Père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, auteur de l'ouvrage « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc », paru aux éditions Médiapol.